Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, édition spéciale.
Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Une nouvelle fois, une édition spéciale consacrée à cette guerre en Ukraine. Bonjour et heureux de vous retrouver, Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Cinquième jour de guerre donc. Des pourparlers ont débuté ce matin en Biélorussie, mais les bombardements continuent à Kiev notamment, vous l'entendrez. On ira également à l'Elysée avec ce nouveau conseil de défense ce matin et en Pologne où les réfugiés continuent d'affluer malgré le froid et la neige. 500 000 Ukrainiens ont déjà fui le pays, selon les derniers chiffres.
Nos deux focus, cette menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine, quel est vraiment le risque et surtout à quoi ressemblerait une attaque de ce type en 2022? Et puis à 12h50, le témoignage de Victor, un Ukrainien, chef d'entreprise en France depuis 20 ans. Il a roulé toute la nuit pour apporter de l'aide à son pays. Il sera en direct avec nous de Pologne.
Notre question du jour sur RTL.fr. Vladimir Poutine brandit la menace nucléaire. Êtes-vous inquiet? Vous dites oui à 62%. La météo du jour, c'est avec vous, Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
Encore une très très belle journée.
Oui, soleil pour tout le monde, ou presque, puisque le ciel est plus nuageux sur la Bretagne avec quelques gouttes prévues cet après-midi. Le tout sous des températures douces cet après-midi avec une forte amplitude thermique par rapport à ce matin parce qu'on a eu beaucoup de gelées. De 10 à 16 degrés au nord et jusqu'à 19 degrés dans le sud-ouest.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi,
édition spéciale.
Et pour commencer donc, direction Kiev, avec ce témoignage, celui d'une Française prise au piège sous les bombes. Isabelle est bloquée dans un hôtel de la capitale ukrainienne avec son fils et son conjoint. Elle appelle l'ambassade en française sur place tous les jours. Mais pour l'instant, aucune solution, aucune issue.
Complètement abandonné, ça c'est certain. On a la chance d'être dans un hôtel qui a été créé avec un sous-sol exprès anti-bombardement. Là, vous entendez, j'ai ouvert la fenêtre pour essayer de vous faire entendre. Et là, on entend des tirs près de notre hôtel. Ah oui, là, ça tire à la carabine ou à la Kalachnikov. Ah oui, là, c'est énorme. Oh là là, ça tire près.
Oh, c'est juste à 10 mètres de notre hôtel, là. Là, on descend.
C'est impressionnant et c'est la première fois depuis que j'y suis. D'habitude, je vois les fumées, mais au loin quand même. Et là, c'est vraiment près de mon hôtel. Et c'est une partie de Kiev qui n'était pas du tout atteinte, on va dire. Je voyais au loin, mais on était vraiment quand même favorisés, on va dire. Et là, ça y est. J'ai l'impression d'être en plein cœur du combat, quoi.
Un témoignage recueilli pour RTL par Frédéric Veil. Des bombardements, vous l'avez entendu, qui se poursuivent. Donc, bonjour Morad Jabari.
Bonjour.
Vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL sur place en Ukraine. Clairement, les Ukrainiens continuent de résister.
Effectivement, même si la ville de Kiev est encerclée par les forces russes, les troupes de Poutine pénètrent mais n'arrivent pas à s'emparer de la capitale pour l'instant. Vous venez de l'entendre et c'est ce que nous disent nos contacts sur place. Ce matin, Kiev était encore bombardé. Le bruit des armes lourdes et des kalachnikovs résonnait dans le centre-ville. Mais Kiev tient bon, comme l'armée ukrainienne et les habitants qui se mobilisent armes à la main. Et un nouveau danger rôde, l'armée fantôme de Poutine, une milice privée, un groupe de mercenaires, le groupe Wagner, connu pour ses méthodes plus que violentes. Il serait 400 dans les rues de Kiev avec une mission traquée et neutralisée, c'est-à-dire tuer Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, mais aussi 23 personnalités. Les combats font toujours rage dans l'est du pays. Certaines petites villes et villages ont été envahis par les troupes de Poutine, qui tentent toujours de s'emparer de Kharkiv, située au nord-est du Donbass, à une trentaine de kilomètres de la frontière russe. La deuxième ville du pays, qui abrite plus d'un million d'habitants, est aussi encerclée par les Russes. Raya est une habitante de Kharkiv.
Depuis le début de l'invasion, ils nous bombardent. Tous les jours, l'armée russe entre dans Kharkiv, mais on les repousse. Au début, on n'avait pas assez d'armes. Maintenant, même les habitants ont des fusils. Et les troupes de Poutine n'arrivent toujours pas à s'emparer de notre ville.
Les Ukrainiens résistent et leur président, Volodymyr Zelensky, les encourage, les galvanise en permanence. Il y a quelques heures, par exemple, il a diffusé une annonce à la télé et à la radio. Tous les prisonniers qui ont une formation militaire ou qui savent manier une arme peuvent sortir de prison et se rendre sur le front. Ils auront en échange une réduction de peine.
Morad Jabari, l'un des envoyés spéciaux de RTL en Ukraine.
Dans le même temps, des pourparlers ont débuté ce matin en Biélorussie.
Et c'est la première fois que Russes et Ukrainiens se retrouvent face à face autour d'une même table depuis le début de cette guerre. Bonjour Bénédicte Tassar.
Bonjour.
Peut-on vraiment en attendre quelque chose? L'Ukraine, on le sait, réclame un cessez-le-feu immédiat.
Alors, il y a quelques minutes, les deux délégations se sont assises d'un côté et de l'autre d'une table nappée de blanc après quelques mots d'accueil d'un dignitaire biélorusse, vous l'entendez en ce moment, à la tête des Ukrainiens en pantalon et pull kaki, le ministre de la Défense. Face à lui, les Russes, avec notamment en costume cravate, l'ancien ministre de la Culture, Vladimir Medinsky, c'est un Russe d'origine ukrainienne. Le cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes russes, c'est le préalable exigé par Kiev. Moscou, pour sa part, n'a pas encore dévoilé sa position. Les négociations doivent se faire dans le silence, indique le porte-parole du Kremlin.
Le président ukrainien qui demande également à ce que son pays intègre l'Union européenne et ce sans délai, ça clairement, ça risque d'agacer encore un peu plus Vladimir Poutine.
Oui, alors déjà avant le déclenchement de la guerre, Vladimir Poutine ne voulait entendre parler de l'entrée de l'Ukraine ni dans l'Union européenne, ni au sein de l'OTAN. Donc c'est sûr qu'en déclenchant l'offensive, il a obtenu le contraire de ce qu'il souhaitait. Aujourd'hui, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, n'est pas contre ce nouvel arrivant. Les opinions diffèrent selon les pays, mais on en parle. Mais ce qui préoccupe surtout le chef du Kremlin actuellement, ce sont nos envois d'armes à Kiev et les sanctions économiques. Vladimir Poutine dénonce l'attitude hostile de l'Union européenne. Les livraisons d'armes de la part des 27 prouvent que la Russie a raison de prendre des mesures de démilitarisation de l'Ukraine, se félicite le président russe.
Et on va revenir sur ces sanctions économiques dans un instant. Merci à vous, Bénédicte Tassard, chef du service étranger de RTL. Avant cela, direction l'Elysée. Thomas Després, vous êtes sur place pour RTL. Nouveau conseil de défense ce matin autour d'Emmanuel Macron.
Oui, c'est le troisième conseil de défense depuis le début de la guerre il y a moins d'une semaine. Autour du chef de l'État et de Jean Castex, une grande partie du gouvernement. Preuve que la crise dépasse la seule question militaire. Outre les ministres de la Défense et des Affaires étrangères, on a vu tout à l'heure Barbara Pompili en charge de l'énergie, le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, ou encore Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports, parce qu'il est notamment question de la fermeture de l'espace aérien européen depuis hier. Bref, objectif, montrer la mobilisation totale de tout le gouvernement sur cette crise. Cet après-midi, Emmanuel Macron poursuivra d'ailleurs ses échanges. À 15h, il recevra la présidente de la Géorgie avant une vaste visioconférence à 17h30. À cette occasion, il échangera notamment avec le chancelier allemand, Olaf Scholz, le président américain ou encore plusieurs représentants de l'OTAN et de l'Union européenne avant un nouveau dîner de travail ce soir à l'Elysée.
Thomas Després en direct de l'Elysée pour RTL.
Et au même moment, ou presque, Jean Castex recevra lui les principaux candidats à l'élection présidentielle.
Réunion prévue tout à l'heure à 15h, inédite, hein, 41 jours maintenant du premier tour pour faire le point sur la situation en Ukraine. Parmi ces candidats, Éric Zemmour, qui s'est dit ce matin sur RTL opposé à l'accueil de réfugiés ici en France. Il préfère, dit-il, qu'ils soient en Pologne. Pas vraiment l'avis des Français, si l'on en croit notre sondage Harris pour RTL et M6. 8 sur 10 y sont favorables. Selon les derniers chiffres du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, ce sont plus de 500 000 Ukrainiens qui auraient déjà fui le pays par la route ou par le train. Gauthier de Lombugard, vous êtes rendu à la gare de Lviv, à l'ouest du pays où la solidarité s'organise.
De grandes tentes bleues sont dressées sur le parvis de la gare. À l'intérieur, des psychologues écoutent ceux qui fuient la guerre. Certains leur confient ce qu'ils ont vécu, le bruit des bombes, les réveils en pleine nuit à cause des rafales tirées en bas de chez eux, les heures passées dans les abris. Des bénévoles, des habitants distribuent des cafés, des gâteaux, de la soupe. Rosislav est l'un des représentants de la Croix-Rouge dans la région.
On a des repas chauds, de la soupe, du thé. Les habitants de Lviv viennent nous apporter la nourriture, des vêtements chauds et on les distribue. Les gens viennent de partout, de Kharkiv, Donetsk, Kiev. Ils ont quitté leur maison à cause des bombardements et n'ont rien pris sur eux.
Devant ces quelques gâteaux, Andrei retrouve le sourire. Il n'a rien mangé depuis hier. Cet habitant de Kiev vient d'arriver par le dernier train. Comme lui, ils étaient des milliers dans les wagons, serrés les uns contre les autres.
J'ai pris le train gratuit de Kiev à Lviv. Quand je suis arrivé à la gare, j'ai entendu de très grosses détonations. Du coup, je suis monté rapidement dans le train. Ici, les autorités locales nous protègent. Il y a plein de bénévoles qui nous aident. On a des endroits pour dormir, ça fait du bien. L'aide humanitaire est bonne. Si on veut, on peut rester à Lviv.
Et puis, il y a toujours ce midi à la gare ces milliers de personnes qui tentent de rejoindre la Pologne par train, mais aussi par car. Un long périple de plusieurs jours les attend.
Lviv, le reportage de Gauthier de Lombugard pour RTL. De l'autre côté de la frontière, Gauthier nous le disait, il y a la Pologne, premier point de chute pour bon nombre de ces réfugiés qui arrivent parfois sous la neige et dans le froid. Et Cindy Hubert, bonjour, vous êtes dans l'extrême sud du pays, au poste frontière de Krosienko.
Oui, c'est un tout petit poste frontière au milieu des montagnes, des nids de cigognes, des tracteurs hors d'âge, de la neige à perte de vue et tout au bout, ces barrières blanches, synonymes de la fin d'un très long voyage pour ces réfugiés. Ils sont des milliers à traverser ici chaque jour, la plupart finissent à pied. Les enfants habillés de gros bonnets et de combinaisons de ski, les bébés emmaillotés dans 2, 3, 4 couvertures. Ici, il y a tant de monde qu'une fois arrivé à la frontière, l'Odyssée n'est pas finie. Il faut encore attendre ici près de 30 heures côté ukrainien. Dehors, dans un froid glacial, sans rien à manger, les plus chanceux dorment dans leur voiture. Alors à l'arrivée, c'est la même scène qui se répète ici sous nos yeux. Une famille apparaît au loin, des petites valises à la main. Tous les proches guettent les silhouettes, tentent de reconnaître un amoureux, une fille. Puis ils ne respectent plus rien du tout, plus les consignes de sécurité données par la police. Et ils s'élancent pour les serrer dans les bras en sanglots, tandis que la neige continue de tomber inlassablement.
Cindy Hubert, envoyée spéciale à la frontière polonaise pour RTL.
Côté russe, les premières sanctions commencent à porter leurs fruits.
Bonjour Marie Guerrier.
Bonjour.
Le rouble a perdu presque un tiers de sa valeur.
Oui, la devise russe s'est effondrée face au dollar et à l'euro en battant des records de faiblesse en début de matinée. Ce midi, on est à 100 roubles pour un dollar au lieu de 83 la semaine dernière et 110 roubles pour un euro. Les sanctions économiques limitent la capacité d'intervention de la Banque centrale russe pour stabiliser sa monnaie. Ses avoirs à l'étranger sont gelés. Cet argent, c'est normalement un coussin de sécurité. Quand l'économie flanche, eh bien, la Banque centrale peut piocher dans ses avoirs pour acheter du rouble et maintenir le taux de change. Le système financier russe ne va pas s'effondrer tout de suite, mais les choses deviennent donc compliquées. La chute du rouble va entraîner une hausse des prix à la consommation pour la population russe, alors que l'inflation était déjà très forte avant le début de la guerre. Et puis ça va coûter aussi plus cher d'emprunter, parce que la Banque centrale russe a relevé fortement ce matin son taux directeur. On sent de la fébrilité. La bourse de Moscou est restée fermée ce matin. Cet après-midi, Vladimir Poutine va recevoir la présidente de la Banque centrale russe et aussi le PDG de la principale banque du pays, Sberbank, dont la filiale en Europe est déjà quasiment en faillite ce matin.
Marie Guerrier du service économie de RTL. Et cette guerre, elle se joue aussi sur le net. Les cyberattaques se sont multipliées ces derniers jours, y compris contre la France. C'est ce qu'a indiqué ce matin Gérald Darmanin. Mais pour l'instant, rien d'inquiétant, Guillaume Chiez.
Non, il s'agit d'attaques de faible intensité qui ont été repoussées, selon le ministre de l'Intérieur. Pour autant, ce type de raid numérique est appelé à se développer. Gérald Darmanin a estimé que dans les semaines à venir, il fallait s'attendre à deux types d'attaques. D'abord, des atteintes ciblées contre des services publics ou des entreprises françaises, mais aussi des tentatives d'ingérence dans l'élection présidentielle, que ce soit au niveau de la gestion informatique des procurations, par exemple, ou sur la manipulation des résultats. Le ministre a précisé ce matin que la France était prête à faire face à ces risques. La semaine dernière, son secrétaire général a fait circuler une note auprès des préfets, des directeurs et chefs de service. Il leur demande une vigilance stricte autour de leurs outils informatiques, mais également d'être mobilisable en moins d'une demi-journée en cas de cyberattaque massive.
Merci à vous, Guillaume Chiez du service police-justice de RTL.
Une pause et notre premier focus, la menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine. Quel est vraiment le risque et surtout à quoi ressemblerait une attaque de ce type en 2022? Nous serons avec le général Trinquant dans ce studio. À tout de suite.
Amandine Bégaud, Pascal Pro.
RTL Midi, édition spéciale. RTL Midi, édition spéciale.
Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Les plus hauts fonctionnaires des pays de l'OTAN se permettent des expressions agressives vis-à-vis de notre pays. C'est pourquoi j'ordonne au ministre de la Défense de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat.
Quatre jours seulement après le début de la guerre en Ukraine, le ton est donc encore monté d'un cran hier. En activant le régime spécial d'alerte, Vladimir Poutine n'hésite plus à brandir la menace nucléaire. Un nouveau cap, un changement de monde, disait même dès hier soir sur RTL le général Desportes, ancien directeur de l'école de guerre.
Il suffit que le président Poutine dise « tirer » pour que, au même moment, pas exactement au même moment, mais en 10 minutes, Londres, Berlin et Paris soient rayés de la carte, et qu'une heure plus tard, Washington soit rayé de la carte. On voit qu'on est, on a complètement changé de monde.
Alors faut-il vraiment s'inquiéter? À quoi pourrait ressembler une telle attaque en 2022? C'est le premier débat de RTL Midi. Bonjour Général Trinquant.
Bonjour.
Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio. On vient d'entendre le général Desportes. Il a raison, on peut imaginer Londres, Berlin ou Paris détruites comme ça en quelques secondes.
C'est ce qu'on appelait le MAD. le mutual destruction. C'est l'option à laquelle on ne réfléchit pas. La déclaration du président Poutine a deux caractères intéressants. Il dit qu'il met en alerte les armes nucléaires stratégiques. Si elles ne sont pas en alerte, c'est très inquiétant. Je veux dire, elles sont toujours en alerte. Donc c'est vraiment du déclaratif. Tous les Russes, j'ai eu des retours des Russes eux-mêmes, qui disaient « mais c'est toujours en alerte ».
Et pourquoi le dit-il ?
Parce qu'il fait de la déclaration. Le président Poutine voit bien qu'il a des difficultés un peu en Ukraine. Ça ne veut pas dire qu'il n'atteindra pas ses objectifs, mais pas à la vitesse à laquelle...
Mais nous, ça veut dire que nous sommes en alerte aussi ?
Bien sûr, en permanence. On a un sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui est au fond de l'océan, prêt à lancer ses missiles sur le top du président. On a des
avions... Mais il y a des degrés, j'imagine. Est-ce que, par exemple, depuis trois jours, on est davantage en alerte en France ?
Il n'y a pas de degrés. À la seconde, ils doivent être prêts à réagir.
Tout le temps, pas guerre en Ukraine.
Tout le temps. C'est ça qui est intéressant pour les auditeurs français, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que nous avons un dispositif de dissuasion qui est en alerte permanente. Donc je parle du sous-marin nucléaire lanceur d'engins, mais également la capacité aérienne. C'est-à-dire que nous avons des rafales avec des missiles de croisière qui sont en alerte. Je n'ai pas le délai, je ne vous le donnerai pas, mais à partir tout le temps. Et les Russes, c'est pareil. Ils ont, et les Américains, c'est pareil, et les Britanniques, c'est pareil. Parce que s'ils n'étaient pas en alerte permanente, à quoi ça servirait ?
Donc ça sert à quoi de dire ça ? À faire peur ?
Si, justement, je répète. Il est dans la difficulté dans sa stratégie aujourd'hui en Ukraine. Donc il fait grimper d'un cran. Il dit, vous avez vu, moi je peux frapper. Ce qui m'intéresse, c'est que ça, c'est vis-à-vis de nous. Quand vous regardez, vous écoutez les réseaux russes, on ne parle pas de ça dans les réseaux russes. On parle de la négociation. Et donc, il peut dire à ses interlocuteurs russes, ses concitoyens, « Voyez, moi, je suis gentil, je veux négocier. » Et si la négociation n'aboutit pas, c'est à cause des Ukrainiens, qui sont des méchants. Parce que c'est quand même très manichéen, ce qu'il a fait. Souvenez-vous de son discours, c'est « On va dénazifier, on va démilitariser, et on va empêcher un massacre absolu en Ukraine. » Donc voilà.
Mais revenons sur l'attaque nucléaire, parce que c'est au cœur de l'angoisse, des inquiétudes des uns et des autres. C'est quoi une attaque nucléaire ? C'est-à-dire que c'est Paris qui peut être détruit avec tous ses habitants tués instantanément ?
Oui, c'est ça, lorsqu'on frappe stratégique. La grosse différence, c'est que la position française, l'utilisation de l'arme nucléaire, est une arme de non-emploi. C'est-à-dire qu'on l'a au cas où on attaquerait.
D'accord.
On tire jamais en premier.
Mais une ogive, par exemple, j'ai vu que la Russie avait 5977 ogives.
C'est le plus gros arsenal nucléaire.
Nous, on n'en a que 290. Mais en même temps, je ne vois pas pourquoi on en a 5977 pour la Russie, puisque si je comprends bien, une seule suffit pour tout détruire.
Si, parce que la différence par rapport à notre stratégie française non-emploi, c'est que la stratégie russe est une stratégie d'emploi. C'est-à-dire que lorsqu'elle sent que ses objectifs ne sont pas atteints, elle peut utiliser de l'armement tactique.
Mais une ogive nucléaire, par exemple, qui arrive sur Paris, et pardonnez-moi de poser ces questions qui sont absolument effrayantes, les conséquences de cela ?
C'est Hiroshima ou pas de 45
D'abord, il y a ogive et ogive. Vous avez une ogive d'un kilotonne et des ogives de 10 mégatonnes. Donc, ça dépend beaucoup de l'ogive. C'est pour ça que je parle de l'armement tactique et de l'armement stratégique. L'armement stratégique, les Russes ont la même chose que nous, des missiles qui peuvent tirer sur Paris. Mais ils ont aussi des missiles qui sont utilisés dans le cadre de leur combat, qui peuvent être utilisés dans le cadre de leur combat.
Et on imagine d'ailleurs que Poutine pourrait utiliser cette arme tactique qui effraierait l'Occident, mais qui n'aurait pas les mêmes conséquences que les armes dont on parle là depuis quelques secondes.
Oui, c'est une possibilité.
Mais qui serait quand même une arme nucléaire.
Si j'ose dire,
à basse intensité, je ne sais pas si on peut dire
comme ça. Il y a déjà un Tchernobyl en Ukraine, ça ferait un Tchernobyl ailleurs.
Mais quand on vous entend, Général Trinquant, on a l'impression que vous n'y croyez pas à cette option-là.
Non, je n'y crois pas.
Oui, mais personne ne croit jamais au pire.
Non, mais attendez, l'arme nucléaire, on rentre dans un autre monde, comme disait mon camarade Vincent Desportes. On rentre dans une autre planète.
Il paraît plus pessimiste que vous, si vous me permettez.
Non, mais c'est pas que je suis pas pessimiste. C'est que je dis que le contrôle de l'armement nucléaire, c'est un dialogue permanent, avec une grammaire, comme disent les stratégiques, bien connue, entre les États-Unis et la Russie. Ils savent très bien quelle grammaire et quel niveau d'alerte ils mettent dans leurs armes. Et naturellement, le niveau d'alerte des armes russes est suivi de très très près par tous les systèmes de surveillance américains.
Mais il y en a encore qui, il y a quelques jours, nous disaient Poutine n'enverra jamais l'Ukraine. Et parce que ça semblait pas possible.
Non, c'est pas que ça ne semblait pas possible, c'est que c'était très dangereux pour lui. Et je maintiens, aujourd'hui, s'il annonce la possibilité d'utiliser l'arme nucléaire, c'est parce que il se rend compte qu'il arrive en butée de sa stratégie. Il n'arrive pas à conquérir les villes au rythme où il voulait les conquérir. Ça ne veut pas dire qu'il les conquérira pas. Ça veut dire que l'armée russe risque de s'enliser en Ukraine. Alors que lui, dans son rêve un peu fou, il pensait que l'armée ukrainienne allait tourner Kazakh.
Dernière chose, parce que ce sujet est passionnant et effrayant. Ouais. La prise de décision, Poutine la prend seul ou il est contraint de négocier avec une ou deux personnes autour de lui?
Alors, je n'ai pas ces clés-là et je ne peux pas vous les donner.
Mais par exemple, en France, le président de la République a la décision seul ?
Il a la décision seul, mais il y a deux clés. Mais je ne peux pas en parler non plus.
Mmh. C'est-à-dire qu'il faut quand même que deux personnes agissent sur ces deux clés.
Pour la mise à feu au bout du compte, oui.
Et quelle est l'autre personne que le président de la République ?
Ah ben, ça dépend. Et encore une fois, je ne peux pas le dire.
Mmh. Mais vous le savez.
C'est ce qu'on appelle secret
défense. Non, je ne le sais pas. Ah, je ne le sais pas. Je ne suis pas habilité secret atomique français.
J'entends bien. Voilà. Mais ces sujets sont passionnants. Ouais. Je le dis parce que tout le week-end, j'ai vu un site qui s'appelle Simulation Attaque Nucléaire. Et effectivement, c'est un site qui permet de voir ce qui se passe en tant qu'attaque nucléaire dans n'importe quelle ville du monde. Et ce site, effectivement, a été extrêmement regardé ce week-end parce que les gens sont évidemment inquiets, angoissés.
Il est naturel que les gens soient inquiets, bien sûr.
Merci. On dit mon général toujours ?
Vous, mon général, oui.
Merci, mon général. Il est 12h52, à tout de suite.
RTL Midi, édition spéciale.
Amandine Bégaud, Pascal Pro.
RTL Midi, édition spéciale.
Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bah moi, j'ai un gilet porte-plaques, je vais le prendre. J'ai un ceinturon de combat aussi, je vais le prendre également. Et voilà. C'est un message en même temps qu'on envoie à tout le monde. Si nos gouvernements, ils veulent pas prendre les armes, même pas forcément prendre les armes, ou agir d'une façon ou d'une autre, bah nous, on le fera. Nous, on le fera.
Hugo a 22 ans, il vit à Lille, a passé 6 mois dans l'armée de terre, n'a aucun lien avec l'Ukraine, mais il est bien décidé, vous l'avez entendu, à partir là-bas pour combattre. Départ prévu mercredi avec une vingtaine de volontaires. Le président ukrainien a dit qu'il accueillerait tous ceux qui souhaitent venir prêter main forte. Certains pays d'ailleurs ont déjà donné leur feu vert à leurs ressortissants. Mais qu'en est-il en France ? Des Français peuvent-ils partir faire la guerre en Ukraine ? C'est le deuxième débat de RTL Midi. Bonjour Anne Le Hennef.
Bonjour.
On ne va pas le cacher, c'est très compliqué d'avoir des informations officielles sur le sujet.
Oui, alors les autorités déconseillent officiellement, formellement à tout le monde de se rendre en ce moment en Ukraine, mais précisent quand même que chacun peut exercer son libre arbitre quand on les interroge sur ce sujet spécifique de gens qui veulent aller combattre en Ukraine. En fait, il n'y a pas de voie qui interdit à des Français d'aller rejoindre les combattants ukrainiens. Et ils sont assez nombreux apparemment à être tentés par cela, puisque sur l'un des groupes Facebook qui a été ouvert, il y a plus de 500 personnes qui sont inscrites et qui sont en train de monter des convois pour aller par la route en Ukraine rejoindre les combattants. Et sur place, ils sont attendus puisque l'ambassade d'Ukraine en France donne sur sa page Facebook une adresse à Kiev, un point de ralliement pour les étrangers qui sont prêts à se battre.
Que dit la loi ?
Alors la loi française, on a cherché dans les textes ce matin, il y a un article du Code civil qui est extrêmement clair et qui précise qu'un Français qui combat pour un pays étranger perd la nationalité française, peut la perdre si l'État français la demande. En fait, depuis plusieurs années, l'État s'est organisé pour punir les combattants qui rejoignaient des groupes ou des pays hostile à la France. On pense évidemment à l'État islamique, à Daesh. Là, ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes parce qu'ils rejoignent des groupes qui ont envie de nuire à la France. On ne peut pas dire que c'est le cas de l'armée ukrainienne aujourd'hui. Ce que la loi française interdit aussi depuis près de 20 ans, c'est le mercenariat, c'est-à-dire d'aller combattre en étant rémunéré pour cela. Ça, c'est puni. Mais aujourd'hui, on ne sait pas très bien ces gens-là qui partent, quel statut ils vont avoir. Ils sont un peu dans une zone grise du droit international. Notamment, et c'est une des grandes questions qui doit se poser, s'ils sont faits prisonniers, comme ils ne sont pas officiellement combattants ukrainiens, quel statut ils auront ? Est-ce qu'ils seront prisonniers de guerre ? C'est encore très très gris aujourd'hui.
Et dans les autres pays, ça se passe comment ?
Alors, certains autres pays ont des lois très très strictes qui interdisent très clairement d'aller combattre à l'étranger. Le Royaume-Uni, par exemple, et puis le Danemark, qui vient de dire ce matin que laisserait les volontaires rejoindre les brigades internationales que l'Ukraine va mettre en place. C'est ce qu'a dit la première ministre danoise en disant que c'est un choix que tout le monde pouvait faire, les Ukrainiens, mais aussi les autres qui pensent qu'ils peuvent contribuer directement au conflit.
Et en fait, ça rappelle l'engagement dans les brigades internationales d'Ernest Hemingway, d'André Malraux.
Des Français en Croatie.
Exactement, dans les années 30.
Général Trinquant.
C'est ce que j'allais dire. On a un exemple historique très précis. Hein. Les des brigades internationales lors de la guerre d'Espagne, du côté des républicains en fait, il y avait beaucoup d'étrangers qui étaient venus avec des noms très célèbres, hein, Kessel, etc., qui étaient allés combattre contre le fascisme de Franco, qui arrivait à ce moment-là. Donc le parallèle est assez facilement identifiable entre des Français qui veulent aller combattre du côté des Ukrainiens contre un régime autoritaire qui est le régime russe.
Vous déconseillez, vous, ça, en tant que...
Ah non, mais attendez, moi, je n'ai pas à conseiller des conseillers. Mmh. Il y a une grosse différence entre des individus qui veulent aller combattre pour une cause qu'ils estiment juste et l'engagement militaire de la France. L'engagement militaire de la France n'est pas possible parce que, on parlait tout à l'heure de l'arme nucléaire, on rentre dans un champ totalement différent. Alors que l'engagement personnel d'un certain nombre de personnes, si l'Ukraine l'autorise et si la France ne l'interdit pas, voilà, pourquoi ne pas le faire ?
Bah merci, mon général. Vous voulez rester quelques minutes et dialoguer avec les auditeurs ? Parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, je vois, au standard. Et vous avez dit tout à l'heure, je n'y crois pas sur l'attaque nucléaire. Et je vois déjà les premiers témoignages qui disent, qui montrent leur inquiétude et leur angoisse. Est-ce que vous souhaitez rester quelques secondes avec nous ?
Oui, en partant du principe que le pire n'est jamais certain.
Oui, mais le pire arrive souvent, si vous me permettez, dans l'histoire des hommes. Lorsque j'ouvre un manuel d'histoire, on peut être effrayé. Ouais. Merci en tout cas. Merci Anne Lehena.
Mais de rien.
Merci beaucoup, à tout de suite.
RTL Midi,
édition spéciale.